au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Hélène Renard.
Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans cette émission Au fil des pages, l'émission littéraire de Canal Académie, une émission qui parle de livres, bien entendu, mais au-delà des livres, qui parle aussi de tout ce qui est en rapport avec le livre, les métiers de l'édition quelquefois, et les bibliothèques. Et c'est le cas aujourd'hui, puisque j'ai le plaisir de recevoir Mireille Pastoureau, conservateur et directeur de la bibliothèque de l'Institut. Alors à tout seigneur, tout honneur, la bibliothèque de l'Institut, une bibliothèque qui vit. Une bibliothèque qui vit, ce n'est pas seulement une bibliothèque qui reçoit des lecteurs et des chercheurs, c'est aussi une bibliothèque dont le fonds s'enrichit en permanence. Et c'est sur ces enrichissements par des objets qui sont des documents, qui sont aussi des manuscrits quelquefois, c'est par ces donations ou ces achats que la bibliothèque s'enrichit. Et Mireille Pastoureau, vous allez nous parler des enrichissements de la bibliothèque de l'Institut depuis ces 3 ou 4 dernières années.
Oui, il s'agit des enrichissements de 2002 à 2005.
Alors, enrichissement, ça veut dire que ça enrichit le fond.
Exactement. Exactement. C'est une bibliothèque, vous savez, qui est au service des 5 académies, qui a pour mission de conserver la mémoire des œuvres des académiciens. Donc, nous nous devons de continuer d'enrichir tous nos fonds dans tous les domaines, toutes les disciplines et toutes les natures de documents et d'objets, ce qui explique que nous avons, comme vous le disiez, des objets, des manuscrits, et pas seulement des livres. Donc cette exposition porte sur les enrichissements les plus précieux, naturellement, pas le courant.
Voilà, c'est une exposition donc que l'on peut voir à l'Institut de France quand on demande à l'entrée à monter jusqu'à la bibliothèque. Alors, l'essentiel de ces enrichissements, Mireille Pastoureau, ce sont des dons. Vous avez tout de même beaucoup de donateurs, à la fois des particuliers, des académiciens et des académies. Mais il y a aussi des achats. Par quoi voulez-vous commencer ?
Oui, par les donateurs, parce que ce sont les gestes les plus touchants. Et il est vrai que c'est une bibliothèque qui a pour caractéristique de recevoir beaucoup de dons, au moins 60% de dons dans tous les domaines de documents. Donc j'espère que nous n'en oublierons pas.
Voilà. Alors j'ai vu qu'il y avait un don, par exemple, de, on ne va peut-être pas tous les citer, mais on a un don de livres anciens sur la langue espagnole. Ce sont des livres qui sont précieux, évidemment, de par leur ancienneté.
Exactement, et par leur contenu scientifique. Ce don provient du professeur Bernard Potier, qui est membre de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, et qui nous a fait la surprise de nous donner 16 ouvrages, dont 6 sont très anciens, notamment du XVIe siècle. Il y a une édition originale très rare d'un lexique bilingue latin-espagnol qui date de 1599. Voilà. Et le professeur Potier a fait une étude sur ce livre et il l'a ensuite déposé à la bibliothèque. Il y a également des ouvrages très intéressants du XVIIIe siècle, publiés à Venise, donnant des correspondances entre la langue espagnole et la langue italienne, à la fois sur le plan de la grammaire et sur le plan du vocabulaire.
Donc là, on est dans la grande érudition. Et il y a alors autre sorte de don très amusant, enfin ça m'a amusé. Il y a un don qui vous a été fait par Monsieur Pierre Jox, parce qu'il est l'arrière-petit-fils de Ludovic Alévi. Alors, c'est une Ludovic Alévi dont vous allez nous parler. Il a tout de même une spécificité extraordinaire. Il est né à l'Institut chez son grand-père. C'est pas tout le monde, tout de même.
Oui, oui, exactement. C'est une famille, la famille de Pierre Jox est très liée à l'Institut, notamment par la branche Alévi. Ludovic Alévi, vous savez, a collaboré avec Henri Meillac. C'était le duo Meillac et Alévi qui a écrit
pour
le livret.
Pour faire des opérettes.
Notamment, voilà, oui. D'Offenbach, mais des comédies, des vaudevilles. Et voilà, donc Monsieur Pierre Jox a retrouvé un certain nombre, 54 volumes anciens, et beaucoup concernent le théâtre, et possède l'ex-libris de son aïeul, Ludovic Alévi. C'est extrêmement intéressant. Alors, nous n'avons pas pu tous les montrer. La place manque, mais c'est un fond très intéressant.
Et autre donation extraordinaire aussi. Alors, on voit cela dans la vitrine. C'est une collection de San Antonio, le policier, le polar. 72 volumes ayant appartenu à Alfred Sauvy. Comme ça, on découvre que M. Sauvy lisait Frédéric Dard.
Exactement. Bon, Alfred Sauvy, beaucoup d'académiciens le reconnaissent. Aurait très bien pu faire partie de l'Académie des sciences morales et politiques. Enfin, c'est un concours de circonstances qui a fait qu'il n'en faisait pas partie, mais par l'esprit, il fait partie de la compagnie. Donc, nous avons accepté ce don qui provient de sa fille, Anne Sauvy, de 72 volumes, parce qu'Alfred Sauvy non seulement appréciait beaucoup la langue de Frédéric Dard, mais encore connaissait personnellement Frédéric Dard, de sorte que nous avons des envois autographes, des dédicaces dans ses livres, notamment dans les vacances de Berrurier, Frédéric Dard a cette phrase: cher Alfred Sauvy, en écrivant chacune de ces pages, je me suis demandé qu'en pensera Sauvy. J'espère que cette délirade vous amusera. De tout cœur, votre San Antonio, 1969.
C'est tout de même surprenant que la bibliothèque de l'Institut accueille même San Antonio. Voilà, c'est fait, c'est fait. Alors, dans les enrichissements de cette bibliothèque, Mireille Pastoureau, il y a aussi beaucoup de dons qui vous sont transmis par l'Académie des Beaux-Arts.
Oui, c'est juste. L'Académie des Beaux-Arts nous a transmis tout un fonds provenant du sculpteur Jean Carton, qui est né en 1911, décédé en 1988. Et nous avons reçu notamment des médailles, des plâtres qu'il avait fait, mais aussi des ouvrages qui lui avaient été donnés par beaucoup d'amis. Donc 136 ouvrages qui comportent pour la plupart des envois autographes. Et l'un d'entre eux comporte aussi une épreuve d'artiste de Georges Rohner. C'est un ouvrage sur Georges Rohner avec un envoi à Jean Carton. Et donc, c'est une heureuse surprise en ouvrant le livre de trouver cette gravure. Et c'est une bibliothèque où on a beaucoup de bonnes surprises comme cela.
Voilà, c'est très agréable. Et j'ai découvert aussi parmi le petit catalogue que vous avez fait à l'occasion de cette exposition sur les enrichissements de la bibliothèque, une exposition que l'on peut voir jusqu'au mois d'août 2006,
oui,
n'est-ce pas?
Oui, jusqu'à notre fermeture août, annuelle, voilà. Oui, voilà. Jusqu'aux vacances.
J'ai aussi découvert qu'il y avait dans le fond Gunnar von Proswitz, Langue et littérature française du 18e, des volumes assez intéressants. Oui. Alors, qui était Gunnar von Proswitz?
Alors, Gunnar von Proswitz était un professeur suédois, professeur de langue et littérature française. Il avait également enseigné à Paris et il a choisi l'Institut, l'Académie française, l'Académie des sciences morales, où il avait un grand ami qui est le recteur Antoine, l'Académie française où il avait un grand admirateur qui est le professeur Marc Fumaroli. Il a donné sa bibliothèque à l'Académie, donc c'est notre bibliothèque qui a recueilli tous ses livres, qui n'a pas tout conservé pour des raisons de place. Nous n'avons sélectionné que ce que nous ne possédions pas déjà. Mmh. Et donc c'est un fonds très intéressant parce que ce sont des livres qui ont voyagé, des livres français sur la langue française, anciens, mais qu'il a achetés en Allemagne, en Russie, dans les pays scandinaves, donc avec des possesseurs qui ne sont pas français. Et c'est très intéressant de voir le voyage que ces livres ont effectué et les mains dans lesquelles ils sont passés en Europe.
Voilà, c'est l'Europe du temps où elle parlait français, comme oui, dirait M. Fumaroli, en effet. Alors, parmi les objets, il y a beaucoup de maquettes d'épées d'académiciens. Certaines vous ont été données, d'autres vous les avez achetées parce que c'est important pour la bibliothèque d'avoir ces maquettes.
Tout à fait. Alors, c'est relativement nouveau parce qu'auparavant, nous conservions des épées, mais pas de maquettes. Donc, c'est à partir de 2002, avec la maquette de l'épée d'académicien de Georges Clémenceau, que notre collection a commencé. Je veux dire que c'est Maître André Damien qui avait signalé que cette maquette passait en vente. Maître Damien a lui-même une très belle collection d'épées, s'intéresse beaucoup à toutes ces reliques de l'Institut, est très compétent. Donc, nous avons acheté la maquette de l'épée de Georges Clémenceau. Et nous avons découvert après coup qu'en réalité, il n'avait jamais été reçu et que l'épée n'avait probablement jamais été réalisée. Mais néanmoins, il y avait eu un projet d'épée en cire. C'est une cire directe.
Voilà, ce projet devait porter l'inscription, tout de même dans le style de l'époque, hein, « Au vainqueur des barbares, la patrie reconnaissante ». Et sur la lame, on devait voir figurer RF, République française. Donc ça, au vainqueur des barbares, la patrie reconnaissante devait figurer sur la lame, et puis RF sur le pommeau. Sur la fusée de l'épée, Les médaillons des alliés seraient en pierre fine. Bon, dommage. Et un lion étouffé par un serpent occupe le clavier. Alors voilà, cette maquette, c'est extrêmement intéressant de la voir, d'autant que l'épée n'a jamais été réalisée finalement.
Tout à fait.
Alors, il y a d'autres maquettes d'épées sur lesquelles vous avez mis une préemption. Ça veut dire que vous les avez achetées
ou... Oui, nous sommes une bibliothèque de l'État. Notre patrimoine est inaliénable. Et à ce titre, nous bénéficions du droit de préemption, qui est une particularité française, une spécificité, qui fait que les collections de l'État, en vente publique, peuvent réquisitionner en quelque sorte le bien qui vient d'être adjugé par le commissaire-priseur au prix du dernier enchérissement.
Alors là, vous avez donc fait mettre une préemption sur 13 maquettes d'épées d'académiciens du sculpteur-graveur lyonnais Louis Muller. Donc, ce sont des maquettes qu'il a réalisées entre 1943 et 1957. Alors, il y a l'épée de René Cassin, Christian Champy, Georges Chaudron, Pierre-Paul Grasset, enfin... Donc, il y a pas mal de...
C'est un très bel ensemble, qui concerne plusieurs académies et qui provient directement de son atelier que sa veuve avait conservé et qui vient d'être vendu après le décès de celle-ci.
Autre maquette, deux maquettes réalisées par Raymond Sudin, donc qui sont la maquette de l'épée d'académicien d'Alain Perfitte et celle d'Olivier Lacombe de l'Académie des sciences morales et politiques. Et aussi ces deux maquettes, alors beaucoup plus récentes celles-ci.
Beaucoup plus récentes. Il est rare de trouver des maquettes comme cela. Et donc, je peux même vous dire qu'elles se trouvent maintenant dans le bureau de notre chancelier, M. Gabriel de Breuil, car celui-ci a succédé à Alain Perfitte, à l'Académie française.
Alors, dans cette rétrospective un petit peu des enrichissements de la bibliothèque de l'Institut, vous avez mis aussi des photographies.
Oui.
Pourquoi ? En quoi sont-elles rares ?
Eh bien, d'une part, vous savez qu'on s'intéresse de plus en plus aux photographies anciennes, mais il est également de notre rôle de conserver des photographies modernes. Et l'Institut a acquis, à l'occasion de la célébration du bicentenaire de son installation dans le palais, en 2005, l'Institut a acquis de rares photographies de l'époque de la Deuxième Guerre mondiale, de 1944, des photographies par Pierre Jahan, qui sont très rares, car on ne possède pratiquement pas de vue de l'Institut à cette époque-là. Donc ce sont surtout des vues du bâtiment, des toits, et à la fois très belles sur le plan esthétique, artistique, et intéressante sur le plan documentaire, parce qu'on voit l'état du bâtiment, qui, je dois dire, était assez délabré à l'époque et qui a subi, heureusement, de belles rénovations depuis.
Alors, il y a donc des photographies aussi de Jean Cardot. Alors là, ce sont encore des épées d'académiciens.
Jean Cardot
photographiait les épées.
Est sculpteur, membre de l'Académie des Beaux-Arts. Et à ce titre, il réalise beaucoup d'épées de ses confrères. Et il a eu l'extrême générosité de nous donner des photographies qu'il avait conservées, d'épées qu'il a réalisées pour ses confrères. Donc, alors, en nous les expliquant. Alors, on a recueilli toutes ces explications. On les a consignés par écrit et là nous avons 8 photos de 6 épées qu'il a conçues pour des confrères et lorsqu'il en fera d'autres, il nous donnera également les photographies.
Mireille Passoureau, dernier élément important pour votre bibliothèque, les manuscrits et les archives. Alors dans ces manuscrits, il y a évidemment des dessins, des plans, mais il y a aussi des lettres. Alors là, ça nous intéresse beaucoup. Quelles sont les lettres les plus importantes que vous ayez reçues ces temps-ci ?
Alors, il y a un lot de lettres. Elles ne sont qu'au nombre de 8, mais l'auteur va vous intéresser. Ce sont des lettres de Marcel Proust à Émile Malle.
Oui.
Madame Émile Malle, Gilberte Émile Malle, qui est la fille d'Émile Malle. Émile Malle, vous savez, était un grand historien de l'art, membre de l'Académie des Inscriptions et Belles Lettres et membre de l'Académie française. Sa fille a déjà fait une grande donation à la bibliothèque avec des papiers de son père, mais elle avait conservé chez elle ses lettres de Proust et tout récemment, elle vient de les donner à la bibliothèque. Ce sont des lettres très intéressantes car Proust y interroge Émile Malle sur les églises qu'il doit visiter, les églises du Moyen-Âge. Il lui demande des conseils. Il est extrêmement respectueux et déférent envers Émile Malle. Il lui témoigne vraiment une grande admiration. Et ensuite, il y a les dernières lettres portent sur des questions qu'il lui pose et sur des noms de personnes et de lieux qu'il veut utiliser dans ses romans. Il l'interroge comme un puits de science, il fait appel à lui. Donc ça, c'est un don très original, mais nous avons également des documents, des fonds de papier très intéressants. Il y a eu le fonds Madeleine et Francis Ambrière, qui comporte beaucoup de correspondances du 19e siècle, dans la lignée de notre collection L'Auvenjoul, qui est une collection de documents romantiques. C'est un très beau fonds sur lequel nous avions fait une exposition en 2003. Et tout récemment, nous avons reçu un très beau fonds de correspondances de Madame Brodel, avec les archives de son mari, Fernand Brodel, qui a été élu membre de l'Académie de française à la fin de sa vie, qui est mort peu de temps après, qui ne conservait pas les manuscrits de ses œuvres, mais en revanche avait gardé toute sa correspondance. Et Madame Brodel nous l'a donnée tout récemment.
192 boîtes, je vois. C'est tout de même énorme.
C'est très important. C'est très important.
Et aussi de la correspondance et des papiers d'André Dupont-Sommer, donc ce grand spécialiste de la culture sémitique du Proche-Orient.
Exactement. Oui, tout à fait, qui était secrétaire perpétuel de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres. Et sa veuve a fait don de documents, de manuscrits de travail et de correspondances qu'elle tenait de son mari, qu'elle avait conservées. Oui.
Alors Mireille Pastoureau, on va faire une promesse à cette antenne. C'est sûr, nous lirons bientôt les lettres de Proust à Émile Malle, avec un beau portrait d'Émile Malle. Je vous en fais la promesse. Et je vous inviterai à l'écouter.
Avec grand plaisir.
Merci Mireille Pastoureau et à une prochaine fois pour une autre émission au fil des pages.